Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, aux 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène Julien Jean-Pierre.
J'aime mieux croire que je suis un cauchemar. Autrement, je vais devenir fou.
Elle le regarde ahuri et il continue.
Je suis en train d'entrer dans le thème de mon livre. Je sais, c'est fou. Mais ce qu'il y a de plus fou, c'est que tu prennes tout ça naturellement.
Il se lève, irrité. Pour sa serviette sur la table, elle soupire et lui dit
« Vu la façon dont tu te conduis, j'ai décidé de partir quelques jours avec une amie. Elle a visité une villa en Bretagne qu'elle veut acheter. »
« Eh bien, pars. Je profiterai pour écrire. »
Elle sort de la pièce. Elle est enfermée dans son bureau. Au bout d'un moment, ne sachant quoi écrire, il regarde droit devant lui. Après avoir réfléchi, il décide d'écrire ce qui lui est arrivé ces jours-ci. Il se penche vers son bureau et voit des feuilles éparses et déjà noircies de sa petite écriture. Surpris, il lit ce qu'il a écrit et voit avec stupeur que c'est ce qu'il a ce qu'il voulait écrire.
Ce n'est pas croyable. Je ne me souviens plus de ce que j'avais déjà écrit cela.
Il regarde l'heure à sa montre.
14h. J'ai l'impression de m'être à peine levé. J'ai plus la notion du temps qui passe. Mon Dieu, que faire? Sans notion du temps, la vie est invivable.
Il sort de son bureau. Va Martin dans le vestibule.
Madame est partie.
Oui, monsieur. Et avant, elle est venue dire au revoir, monsieur. Monsieur s'en souvient plus? Monsieur n'est pas bien?
Vous êtes comme moi. Je me pose tant de questions. Pourquoi est-ce que cette vie que je vis et qui pourrait être une autre vie? Quelquefois, je me demande et je me regarde vivre et me dis que je ne vis pas vraiment. Mais comment savoir si on vit vraiment? Ou si on se regarde vivre. C'est pas facile.
Albert lui dit,
moi en ce moment, je suis incapable de voir la différence entre le réel et l'irréel.
Martin le regarde et lui dit,
vous avez de la chance. Albert, vous croyez? J'ai faim.
Mon monsieur a déjà mangé, il y a un quart d'heure. Il avait dit qu'il avait trop mangé.
Vous croyez? J'ai pas de chance.
Il retourne à son bureau. Mais seulement pour y rêvasser. Il est à son bureau, démoralisé, à ne savoir que faire, on frappe à la porte.
Entrez.
C'est Martin.
Monsieur, il y a monsieur des Anjus qui désirait vous voir.
Faites-le entrer, Martin, dans ce bureau. Ils seront plus à l'aise.
Martin sort. Albert range ses papiers sur le bureau et les met en pile.
La porte s'est ouverte pour la seconde fois et apparaît un homme maigre, presque osseux, chauve sur le devant, des lunettes qui cachent des yeux bleus profonds et une moustache grise. Il porte un costume croix-pièce. Se dégage en lui une certaine élégance vieillotte mais profonde. C'est Monsieur de Genjus, membre d'une noble famille de la branche des Hautebeurs, célibataire, aimant beaucoup les jeunes gens, écrivain amateur et amateur d'œuvres d'art. C'est lui qui, pour ainsi dire, invente, crée tous ces personnages qui sont passés dans ses multiples histoires. Et Albert est aussi son œuvre. Mais ce qui fait que l'œuvre d'Albert est la sienne. De tout ceci, Albert ne peut le savoir, car l'on croit connaître ses parents, ceux qui vous ont mis au monde, mais personne ne connaît le Créateur suprême.
Albert se lève pour saluer son ami et conseiller. Malgré qu'il fasse jour, la pièce est dans la pénombre, les volets n'ont pas été ouverts et seules les lampes l'éclairent. Car Martin a peur pour son maître. Il dit que l'inspiration vient des ondes du ciel et que si ces ondes, on les attire trop, peuvent être dangereuses. C'est pour les diminuer qui n'ouvre pas les volets lorsque son maître écrit.
Je suis heureux de vous revoir.
Moi aussi, Albert.
Ils se font la collade, car cela fait longtemps qu'ils se connaissent.
Je vous reçois ici. C'est pour que nous soyons plus à l'aise.
Tu as raison, et tu as bien fait. Une bibliothèque, un bureau, c'est mon univers.
Ils vont s'asseoir, tous deux, dans des fauteuils en cuir marron, près de la cheminée.
Alors, Albert, j'ai appris que tu as des ennuis ?
Oui, non, c'est-à-dire qu'il se passe des choses étranges.
Raconte-moi.
Vous allez vous moquer de moi ?
Non, un écrivain ne se moque jamais.
Car tout est possible pour lui.
Eh bien voilà, ça a commencé le jour où je me suis mis à douter de mon œuvre. Je trouvais que je me répétais et racontais toujours les mêmes choses. Alors, j'ai décidé de décrire autre chose. Et tout d'un coup, tout a basculé. Tout a basculé dans ma vie. Tout ce que je fais est déjà fait. Je téléphone, on me dit que j'ai déjà téléphoné il y a 10 minutes. Je vais au restaurant, j'apprends que j'ai fini de déjeuner il y a à peine 5 minutes, etc. J'ai des illuminations aussi. Je crois voir des personnages de mes romans entrer dans ma vie. Je n'ai plus notion de l'heure. Je vais écrire ce que j'ai déjà écrit. Enfin voilà, ma vie est devenue un enfer. Je ne sais pas penser. J'ai l'impression de devenir fou.
Il ne faut pas te démoraliser. Tu sais fort bien que pour en sortir, la solution est qu'il suffit de trouver la clé. Ne commence jamais d'écrire un sujet sans en connaître la fin. Cela t'évitera des ennuis. Fais un plan pour éviter d'écrire n'importe quoi.
Mais ce qui m'arrive n'a rien à voir avec un roman. Mes ennemis sont bien réels. Je les vis. Tu sais fort bien que pour nous, notre imagination et le réel se mêlent. Notre vie intérieure est si forte que quelquefois, nous la prenons pour la vraie vie. Tu sais, hein? Alors, toi, ce que tu as, c'est que tu vois, tu ne vois plus la différence qu'il y a entre le réel et l'irréel, et ton imagination. Que dois-je faire? Ne plus écrire, mais lire et vivre intensément. Comment puis-je vivre intensément, puisque je trouve la vie fade, sans rapport avec l'imaginaire? Ne pensez à rien. Acceptez les petits plaisirs de la vie, et les peines aussi. Et vivre, voyager, changer de monde. Aimer vivre, ça veut dire aimer les petites choses, comme tout le monde. Et ma vie deviendra normale? Oui, sans attrait monotone. Vous croyez que c'est vraiment cela, la vraie vie? C'est une vie brute, sans sublimation. Je vais suivre votre conseil, mais pourrais-je reprendre ma vie? Les dieux descendent de l'Olympe et y retournent. Pourquoi pas nous? Mais pour cela, il vous faut un caractère suffisamment fort.
Est revenu et ils sont tous deux assis au salon, l'un en face de l'autre, sur des fauteuils. Albert Gené lui dit « J'ai décidé de faire un petit voyage. » « Ah ? » « Oui, j'ai besoin de changer de vie. Je ne suis pas bien ces derniers temps. »«
Et où comptes-tu aller ?»«
Je ne sais pas. Je vais partir au hasard. » »«
Joli programme. » Es-tu sûr d'être bien? J'ai l'impression que tu serais mieux dans une maison de repos.
Non, merci. Au milieu des dépressifs.
Pourtant, le docteur...
Non, Françoise, je veux être libre de mes mouvements et je partirai faire un voyage seul.
Comme tu voudras, mon ami.
Il se lève.
Où vas-tu?
Ranger des affaires à mon bureau.
Et il sort de la pièce.
Arrivé à son bureau, il ouvre les tiroirs de son bureau. Sont vides.
Je ne comprends pas. Les ai-je vidés?
C'est sa femme qui lui dit « Tu as
rangé ton bureau de fond en comble ce matin. Qu'as-tu encore à ranger ?
Rien.
Elle hausse ses épaules. T'es pas dans ton état normal. Et tu ne peux pas voyager seul. Accepte que je vienne avec toi.
Non. Que ferais-tu dans ma nouvelle vie ? Tu es trop sophistiqué.
Mais que comptes-tu faire ?
Vivre une autre vie pour me libérer.
C'est absurde.
Il regarde sa montre. Excuse-moi, mais je dois partir ce soir. J'ai ma valise à faire.
Et il sort de la pièce. Pour aller dans sa chambre, faire sa valise.
Pendant ce temps, du bureau, sa femme téléphone au médecin.
Docteur, bonjour, c'est Françoise. Oui, c'est terrible, elle a décidé de partir ce soir pour changer de vie. J'ai peur. Que devons-nous faire ? Vous appelez Monsieur Jean-Jus pour qu'il le surveille.
Merci, docteur. Je n'aime pas cet homme. Je le trouve bizarre et un peu familier avec les jeunes gens.
Oui, vous avez raison. Comme tous les artistes, il est excentrique.
Bon, alors vous direz bien à Monsieur de Jean-Jus de le faire surveiller.
Au revoir, docteur. Merci.
Je vais voir ce qu'il fait.
Elle sort de la pièce. Albert, une valise à la main, descend des escaliers. Arrivé vers elle, elle lui dit
« Tu prends l'avion ?»«
Non, le train. »«
Tu veux que je t'accompagne ?»«
Non, appelle un taxi. »«
Pourquoi ne veux-tu pas que je t'accompagne ?»«
Je veux changer de vie. »«
Et moi ?»«
Toi, tu as l'habitude de tout ça. Tes amis t'aideront. »«
Je t'aime. »«
Tu n'oublieras. »
Tu es cruel.
Comme on l'est dans les romans.
C'est-à-dire ?
Avec grandeur d'âme.
Il se retourne pour sortir. Elle lui dit :
Même pas un baiser.
Il ouvre la porte.
Un réflexe d'artiste pour qu'elle puisse le voir s'éloigner dans le brouillard.
Il a laissé la porte ouverte. Ce n'est pas facile de perdre ses habitudes de dramaturge.
À vive allure dans la nuit. C'est un vieux train à compartiment. Où il va, il ne le sait. Qu'importe. De toute façon, il arrêtera son voyage au hasard. La porte du compartiment s'ouvre. Il voit entrer Charles de Haute-Bord. Le sourire. Albert lui dit.
Mais vous ?
Oui, je peux m'asseoir à vos côtés ?
Oui.
C'est ce qu'il fait. Albert lui dit.
Comment se fait-il que vous soyez là ?
On peut se débarrasser aussi facilement de sa vie antérieure. C'est M. Jean-Jus qui m'a dit de vous protéger.
Contre quoi ?
La déception de la réalité.
Mais je veux me libérer de vous tous. et ne veut plus faire partie de votre monde. Si vous êtes avec moi, je ne pourrai y arriver. Et pourquoi M. de Gingy vous a-t-il donné cette tâche?
Parce qu'il sait que vous m'aimez bien.
Il a raison. C'est vous que je préfère. Je crois qu'il se fait tard. Nous ferions mieux de nous assoupir.
Vous avez raison. Charles allonge ses jambes et ferme son manteau. Albert éteint la lumière et en fait autant.
Plus tard, Albert se lève, prend sa valise du filet,
merci infiniment,
regarde Charles qui dort et sort du compartiment.
Billet, s'il vous plaît.
Le train vient de s'arrêter.
Ne suis-je pas
là? Je ne sais pas où.
Oh, comme c'est fâcheux. Je voudrais bien.
On n'a pas regardé le nom de la ville ou du village.
Qu'est-ce que vous faites là?
À la sortie de la gare, il se trouve dans un petit village. Petite place avec des platanes. En face, une maison grise de 2 étages avec dessus hôtel de la gare. Il se retourne et voit gare de Saint-Alban. À sa gauche, un panneau. Saint-Alban, centre, 1 km. Il suit la route qui longe les champs et en face de lui, il voit des maisons et un clocher. Village est quelconque, sa place avec un monument aux morts, son église, sa mairie, école et son café, tabac, épicerie. Il va au café. C'est sombre, ça sent le moisi, le tabac, l'alcool et la lessive. Les 3 consommateurs qui sont à des tables l'ont regardé. Ils s'avancent vers le comptoir. Le patron, un gros homme rouge, à cigarette et casquette.
Un demi, s'il vous plaît.
La servie.
Vous ne savez pas où je pourrais trouver une chambre.
C'est-à-dire que l'hôtel de la gare n'est ouvert.
L'été,
je n'ai pas de chambre. Il y a peut-être la mère Martin qui pourrait vous aider. Elle pourrait louer quelque chose. Elle vit seule dans une grande maison que son père lui a laissée. Allez-y voir. La maison est juste au bout du village. Une grande bâtisse rose. Il est allé. La maison est 2 étages. Elle est sans style, mais bien construite. Devant la maison se trouve une cour en gravier.
Il a sonné à la maison, plutôt au portail. Sort de la maison une femme dans les 30 ans, habillée de noir, cheveux noirs en chignon, peau très blanche. Elle a un aspect sec, dur, mais digne. Elle s'essuie les mains avec un chiffon.
Qu'est-ce que c'est ?
Bonjour madame, je viens de la part du cafetier.
Qui m'a dit que vous pourriez peut-être me loger ?
Je ne suis pas un hôtel.
Enfin, nous allons voir.
Elle descend les marches pour aller ouvrir le portail.
Merci madame.
Et elle le guide jusqu'à la maison.
J'ai pris.
Une fois entré, Albert sent le meuble ciré et le feu de cheminée. Le couloir est sombre. On entend le tic-tac d'une horloge. Elle la fait entrer dans une pièce qui doit être le salon. Un piano droit contre le mur, recouverte de broderies et de cadres avec de vieilles photographies. Une table ronde, un pot de fleurs séchées dessus, des chaises autour, un buffet plein de babioles. L'horloge se trouve dans cette pièce et une cheminée.
Asseyez-vous.
Il s'assoit sur une chaise qui est près de la table.
Vous voulez boire quelque chose ?
Non, merci. Elle s'assoit en face de lui.
Vous voudriez la chambre pour combien de temps ?
Je ne sais pas encore. Peut-être un mois, peut-être plus.
Bon, il faut que je vous dise. C'est que je vis seul. J'ai une femme de ménage qui vient faire les courses et épousseter tous les jours. Si je vous loue, il faudra absolument être que vous soyez sérieux. Pas de visite.
Je vous promets, madame.
Bien. La chambre n'est pas très grande, mais elle est propre. Je la ferai nettoyer tous les jours, si vous le voulez. Pour ce qui est des repas, petit déjeuner à votre heure. Prévenir la veille. Déjeuner 12h30 et dîner 19h. Nous sommes à la campagne, n'est-ce pas ?
Bon, ça me convient parfaitement.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.